Vous écoutez On lit pour vous.
Travailler dehors, ça marche! Un texte de Maude Goyer, paru le 16 juin 2026 dans La Presse. Réunion en marchant, lunch au parc, ordinateur portable sorti sur une terrasse. De plus en plus de travailleurs de bureau s'installent dehors. Ce qu'on appelle l'outdoor office n'est plus une fantaisie estivale. C'est une pratique qui commence à être documentée et qui fait ses preuves. Depuis 3 ans, Isabelle Racine a pris l'habitude de quitter les 4 murs de son bureau. Quand sa patronne propose de faire le tour du carré pour amorcer une réunion, l'adjointe administrative ne refuse jamais. Je trouve que, côte à côte, on est moins dans la confrontation, raconte la quadragénaire. Ça crée un ton de confidence. Dans sa boîte montréalaise d'une 20aine de personnes spécialisées en design, la pratique est maintenant banale. Tout le monde l'a adoptée. Des racines scandinaves. Le terme « outdoor office » est apparu vers 2020, mais a vraiment pris son essor entre 2023 et 2024. Selon Laurent Simon, professeur au département d'entrepreneuriat et innovation de HEC Montréal, le phénomène vient en partie des pays nordiques où la psychologie de l'environnement est étudiée depuis longtemps. En Norvège, par exemple, les effets du travail en plein air sur le bien-être sont documentés depuis des années. C'est dans l'air du temps, souligne le professeur. C'est un phénomène récent et on commence à l'étudier sérieusement. Il nomme la popularité grandissante des standing meetings, ces réunions où l'on marche plutôt que de s'asseoir. Même à HEC, cette pratique gagne du terrain. Ça arrive de plus en plus fréquemment, dit-il. On sort dans le bois autour de l'école pour tenir des rencontres en marchant. Racines culturelles. Cette évolution se heurte encore à certaines résistances, expose Laurent Simon. Depuis une centaine d'années, on standardise les comportements en entreprise pour être productif et rentable, souligne-t-il. Travailler dehors ne faisait pas sérieux. On avait l'impression de perdre le contrôle. Il y voit aussi des racines culturelles profondes. Il y a quelque chose de judéo-chrétien là-dedans. Cette idée de ne pas mêler travail et plaisir, devoir et liberté. Et pourtant, les effets positifs sont nombreux. Travailler à l'extérieur favoriserait la pensée latérale. Le cerveau, moins contraint par l'effort de concentration pure, capte davantage de petits stimuli et établit des connexions inhabituelles. On devient plus créatif, note Laurent Simon. La concentration extrême peut créer des ornières. Renversement de philosophie. À l'Insectarium de Montréal, on a observé ces effets de près. En 2023, l'Insectarium de Montréal est devenu une organisation biophilique dans le cadre d'un laboratoire mené en collaboration avec HEC Montréal. Ce que cela signifie? L'entreprise favorise et intègre le contact avec la nature dans ses pratiques de gestion au quotidien. Notre pari, c'est qu'en offrant aux employés un environnement de travail en lien avec la nature, on contribue à leur bien-être et, ultimement, à leur productivité, explique Maxime Larrivé, entomologiste et directeur de l'Insectarium. Des postes extérieurs connectés ont été installés dans la cour arrière. Des réunions se tiennent en marchant. On a aménagé un jardin où les employés peuvent cueillir tomates et petits fruits à la pause. Des mûriers longent les clôtures. Des mangeoires ont été accrochées devant les espaces de bureaux et les 45 employés disposent de jumelles. Ce que ça donne, ce sont des employés qui vont bien et qui sont plus authentiques dans leurs relations tout en étant productifs. Résume Maxime Larrivé. Il décrit un renversement de philosophie. On fait le choix qu'en investissant dans le bien-être, la productivité sera au rendez-vous, et non l'inverse. Bonne pratique. L'impression que travailler dehors est moins sérieux est tenace et fausse. On respire mieux, on se sent mieux et on est souvent plus efficace, précise Laurent Simon de HEC Montréal. Isabelle Racine l'a constaté à sa manière. J'ai commencé à prendre mes pauses dehors et j'ai remarqué l'effet positif sur mon après-midi. Je lunche dehors dès que je peux, avec des collègues. Ça fait une vraie différence. Pour s'y mettre, Laurent Simon mise sur l'autonomie plutôt que la prescription. Il faut laisser la possibilité aux employés sans micromanagement. On annonce que c'est possible et les gens s'ajustent. Il souligne que si les organisations permettent déjà le télétravail, autoriser une réunion dehors devrait aller de soi. L'aménagement urbain joue aussi un rôle. La proximité des espaces verts change la donne. Si on avait plus de parcs accessibles au centre-ville, on irait sans doute plus souvent. Glisse-t-il. Dans un contexte où les employés sont nombreux à remettre en question des pratiques qu'ils jugent dénaturantes, redonner de l'air aux organisations, au sens propre comme au figuré, est un levier simple, accessible et porteur. C'est un levier fort pour la mobilisation, l'efficacité, la santé mentale et la santé physique, affirme Laurent Simon. C'était « Travailler dehors, ça marche », un texte de Maude Goyer, paru le 16 juin 2026 dans La Presse.
Effacer les triangles roses sur la chaussée du village, ce serait comme effacer notre histoire. Une chronique de Denis Daniel Boulay, parue le 18 juin 2026 dans le magazine Fugue. Sur les réseaux sociaux, certaines se sont plaintes de l'utilisation du triangle rose dans le concept de piétonnisation du village. Fait étonnant, plusieurs de ces critiques ont été formulées avant même que le projet soit complété, que l'ensemble de la conception, qui intègre également les couleurs du drapeau arc-en-ciel, puisse être apprécié dans son contexte. Malgré cela, certaines ont même demandé que les triangles roses soient effacés. Un des arguments avancés par les mêmes mécontents-mécontentes, c'est que cela ne rappellerait pas de bons souvenirs. Justement, aurais-je envie d'écrire, c'est exactement la raison de leur présence, un rappel de notre histoire. Dans un monde où, actuellement, de plus en plus de pays tentent de restreindre nos libertés, voire de les criminaliser, nous devons rester vigilants et surtout montrer notre solidarité. Quoi de mieux alors que ce symbole pour que nous restions éveillés et connectés avec la réalité? D'autres villes sont allées plus loin en créant des mémoriaux avec le triangle rose pour rendre hommage à tous celles et ceux qui ont péri pendant cette période. Amsterdam, Sydney, Berlin, New York, pour n'en citer que quelques-unes. L'Allemagne nazie, dès les années 1930, s'est lancé dans une chasse aux homosexuels en se fondant sur le paragraphe 175 du Code pénal qui criminalisait l'homosexualité. Les nazis ont alors imposé des insignes distinctifs à tous les groupes minorisés qu'ils considéraient comme des parias. Les homosexuels identifiés devaient alors porter ce triangle rose. Un grand nombre ont été arrêtés et ont fini dans les camps de la mort, où plusieurs ont été exterminés. On estime à plus de 50 000 le nombre de personnes condamnées en vertu de cette loi, et entre 10 000 et 15 000 celles qui ont été envoyées dans les camps de concentration, dont 53 % auraient été tuées. Eh oui, ce n'est pas une histoire drôle, mais elle peut faire écho à tous les pays qui, par divers moyens, tentent de faire disparaître les personnes 2LGBTQ+, de leur territoire. Et ce symbole demeure un rappel puissant des tentatives, hier comme aujourd'hui, d'effacer les personnes LGBTQ+, de l'espace public. Les triangles roses sont aussi une occasion pour les plus jeunes de découvrir l'histoire de leur communauté, peut-être de se l'approprier et de la transmettre plus tard. Mais le triangle rose ne fait pas uniquement écho à cette période monstrueuse du siècle dernier. Il ne faut pas non plus oublier ça. Et la Société de développement commercial, SDC du village, en était aussi consciente quand elle a décidé de peindre ces triangles roses comme symbole en plus de l'arc-en-ciel. Gabrielle Rondy, directrice générale de la SDC du village, confirme que les triangles roses ont effectivement fait jaser sur les réseaux sociaux, mais elle rappelle que le choix n'a pas été pris à la légère. Nous sommes très conscientes de la charge historique du symbole. Rappelons que dès les premiers mouvements gays et lesbiens des années 1970, les militants et les militantes se sont réappropriés le triangle rose comme symbole de mémoire, de résistance et de fierté. Un retournement du stigmate. On l'arborait durant les manifestations, les fêtes et les marches de la fierté pendant au moins une bonne décennie, et même au quotidien. Des journaux communautaires et alternatifs, des bars aussi ont porté ce nom. Des associations l'ont utilisé comme logo, comme ACT UP, avec le triangle rose et la phrase « silence » égale « death ». Le silence, c'est la mort, en lien avec la lutte pour l'accès aux soins pour les personnes atteintes du sida. Ou encore SOS homophobie en France et les archives gays au Québec. Il faudra l'arrivée du drapeau arc-en-ciel puis de ses dérivés pour que le triangle rose perde de sa popularité, mais pas du symbole qu'il représentait et représente encore. Le triangle rose a donc toute sa place dans le village. Plus que jamais, il est un lien entre le présent et le passé. Il fait partie de notre mémoire collective qui a l'air de faire cruellement défaut à ces personnes qui voudraient que le triangle rose disparaisse du revêtement de la rue Sainte-Catherine. Il faut alors saluer le choix de la SDC du village pour son devoir de mémoire. Depuis des années, la SDC met toute son énergie à faire du village un lieu accueillant, parfois festif, afin qu'il soit à l'image de nos communautés et de leur histoire. Nous connaissons toutes les contraintes auxquelles la SDC doit faire face, ce qui ne l'empêche pas de multiplier les initiatives en partenariat et en solidarité avec d'autres organismes. Parce qu'au fond, si l'on commence à effacer de l'espace public tout ce qui nous rappelle les moments douloureux de notre histoire, il ne restera bientôt plus grand-chose à commémorer. Finissons donc avec un peu d'humour. Si le triangle rose fait écho à un passé trop douloureux et qui ne devrait pas avoir sa place dans le village, j'ai d'autres propositions du même genre. Fermons le parc de l'espoir, qui rend hommage aux personnes victimes du sida. Cela rappelle trop de mauvais souvenirs. Poussons le bouchon un peu plus loin. Abandonnons le défilé, qui, comme tous les défilés de la fierté à travers le monde, commémore Stonewall, les affrontements entre des membres de nos communautés et la police en 1969. Pas de bons souvenirs non plus. Évidemment, j'ironise, on ne peut pas moralement effacer notre histoire, d'autant plus que le triangle rose ne symbolise plus depuis longtemps uniquement la persécution. Les communautés LGBTQ+, l'ont repris à leur compte et l'ont transformé en symbole de résistance, de fierté et de mémoire collective. Vouloir le faire disparaître parce qu'il rappelle une période sombre, c'est oublier ce qu'il est devenu depuis. C'était « Effacer les triangles roses sur la chaussée du village, ce serait comme effacer notre histoire. » Une chronique de Denis Daniel Boulay, parue le 18 juin 2026 dans le magazine Fugue.
Maison des fous, courriel promotionnel et nouvelle langue. Un texte d'Alain McKenna, paru le 17 juin 2026 dans La Presse. Martin Côté, un lecteur, demande « Comme dans la maison des fous d'Astérix, les liens de désabonnement des infolettres d'entreprise refusent de fonctionner même quand je réessaie plusieurs fois. Ne sont-ils pas obligés par la loi de me désabonner? » Astérix aurait-il su reprendre le contrôle de sa boîte de réception s'il avait vécu en 2026? Les paris sont ouverts. Cela dit, la loi canadienne contre les pourriels est plutôt sévère. Elle impose aux entreprises d'inclure un mécanisme de désabonnement clair, gratuit et fonctionnel. La loi précise même que le retrait de votre adresse doit s'effectuer dans un délai maximal de 10 jours ouvrables. En pratique, certains expéditeurs transforment ce bouton en illusion numérique. Cliquer sur un lien défectueux valide parfois simplement votre adresse auprès d'un robot, ce qui va multiplier les envois. D'autres fois, un bug technique brise la page de désabonnement. Pour retrouver la paix d'esprit, utilisez votre service de messagerie. Apple Mail, Gmail et Outlook, entre autres, repèrent automatiquement les listes de diffusion. Elles affichent un bouton de désabonnement universel tout en haut de votre message. Si l'expéditeur persiste, signalez le message comme un pourriel. Vos filtres bloqueront définitivement ce pollueur. Benoît Guérin, un lecteur, demande « J'ai acheté un nouvel ordinateur de bureau avec la suite de sécurité de McAfee, préinstallée et gratuite pour 30 jours. Depuis que ces 30 jours sont écoulés, je reçois de nombreux courriels et pourriels qui m'avertissent que je suis en danger. Comment les arnaqueurs font-ils? » Ce déluge d'alerte est une tactique pour vous faire paniquer. Il faut toutefois séparer le bon grain de l'ivraie, car vous faites face à deux phénomènes distincts. D'un côté, les messages de McAfee proviennent de l'éditeur du logiciel. L'entreprise utilise un marketing agressif pour vous inciter à sortir votre carte de crédit. Lors de l'activation de votre ordinateur, le système a transmis votre adresse à sa base de données. L'échéance des 30 jours déclenche ces relances automatiques. D'un autre côté, les pourriels malveillants profitent de la coïncidence. Les arnaqueurs ne savent pas nécessairement que vous possédez un produit McAfee. Ils envoient des millions de courriels identiques à travers la planète. Comme la suite McAfee est préinstallée sur une immense majorité de PC neufs, les fraudeurs tombent juste sur une tonne de cas. La solution pour retrouver le calme est simple. Désinstallez McAfee de votre machine par le panneau de configuration. Windows Security, déjà intégré et gratuit dans votre ordinateur, prendra le relais pour vous protéger. Bloquez ensuite les expéditeurs de ces pourriels agaçants. Suzanne Côté, une lectrice, demande « Est-ce que les applications pour apprendre de nouvelles langues à l'aide de l'intelligence artificielle sont sécuritaires en matière de confidentialité et de données personnelles? » La promesse d'apprendre une nouvelle langue de façon ludique, cache souvent un échange de données peu transparent. Ces applications s'avèrent généralement sécuritaires contre les virus, le bilan s'assombrit du côté de votre vie privée. La majorité des outils linguistiques gratuits se financent par la publicité ou le ciblage comportemental. Ils collectent une bonne quantité de renseignements personnels. Votre emplacement, le modèle de votre téléphone et vos habitudes de connexion peuvent se retrouver dans leur base de données. Et ces renseignements alimentent ensuite des courtiers de données publicitaires. Les politiques de confidentialité de ces entreprises se lisent comme de longs contrats juridiques opaques. Elles s'accordent le droit de partager votre profil avec des parties tierces pour optimiser leur marketing. L'obligation éventuelle de créer un compte avec votre profil Facebook ou Google simplifie le maillage de votre identité numérique. Pour limiter les dégâts, refusez le suivi publicitaire lors du premier lancement de l'application. Refusez l'accès à la location si l'application fonctionne sans cette permission. Protégez votre environnement numérique pendant votre apprentissage. C'était Maison des fous, courriel promotionnel et nouvelle langue. Un texte d'Alain McKenna, paru le 17 juin 2026 dans La Presse.
Il faut réduire le nombre d'examens inutiles, plaide le Collège des médecins. Un texte de Louise Leduc, paru le 18 juin 2026 dans La Presse. Les imageries par résonance magnétique, IRM, du corps entier que proposent des cliniques privées sont souvent superflues, source d'anxiété et entraînent des coûts inutiles, estime le Collège des médecins et le groupe Choisir avec soin Québec dans un avis commun paru le 18 juin 2026. Il est naturel de vouloir faire tout ce qui est possible pour préserver sa santé. L'idée de tout vérifier peut sembler rassurante, mais en médecine, les choses sont rarement aussi simples, indique le docteur René Whitmer, président de Choisir avec soin Québec, un groupe voué à la réduction des examens, des interventions et des traitements médicaux inutiles. Des cliniques privées présentent ces IRM pancorporels comme un examen de prévention, gage de longévité et permettant un bilan de santé complet, dit Lavie. En réalité, l'IRM du corps entier détecte surtout des anomalies sans gravité qui ne causent aucun problème, kystes bénins, petites anomalies anatomiques, changements liés à l'âge, peut-on lire. S'ensuivent alors beaucoup de stress causé par des examens supplémentaires inutiles, des coûts importants et la perte de temps que suppose la vérification de résultats qui se révèlent normaux dans la grande majorité des cas. Des IRM pancorporels, qui dans les cliniques privées coûtent souvent plus de 2 500 $, sont certes utiles dans bien des cas précis, précise Lavie. Elles sont indiquées pour certaines personnes souffrant de maladies génétiques rares qui sont fortement à risque de cancer, de même qu'à titre de suivi de certains cancers connus ou en présence de maladies spécifiques touchant plusieurs parties du corps. De la même façon, les bénéfices de certains examens de dépistage ont été démontrés scientifiquement. Plus d'examens, meilleurs soins? Mais aller à la pêche, purement et simplement, avec un examen d'une telle envergure, est contre-indiqué, dit le docteur Maurice Gaudreau, président du Collège des médecins du Québec. Dans la très vaste majorité des cas, ces examens sont non pertinents, comme le démontrent les données scientifiques. Nous rappelons aux médecins que de les prescrire en l'absence d'indications spécifiques va à l'encontre de la science et est contraire à leurs obligations déontologiques. Pour l'affirmer, la vie s'appuie sur une recherche exploratoire récente de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux. Selon cette étude, la quasi-totalité des personnes examinées, jusqu'à 9 sur 10, se verra détecter au moins une anomalie. Dans 15 % à 30 % des cas, ces anomalies mèneront à d'autres examens ou consultations. Pourtant, seulement 1 à 2 personnes sur 100 auront un cancer réellement confirmé. En conclusion, dans leur avis commun, le Collège des médecins et le groupe Choisir avec soin Québec soutiennent que multiplier les examens ne se traduit pas par de meilleurs soins. La meilleure prévention repose sur des soins pertinents, fondés sur la science et adaptés à chaque personne, est-il écrit. En 2025, l'Association canadienne des radiologistes, ACR, a aussi fait une sortie publique pour manifester son opposition au dépistage par IRM du corps entier chez les personnes asymptomatiques. Dans son énoncé de position de 2025, l'ACR a signalé que les IRM effectués sur indication clinique sont réalisés en fonction de symptômes précis ou de facteurs de risque selon des protocoles adaptés et souvent avec l'administration d'un agent de contraste afin d'améliorer la précision diagnostique. En revanche, le dépistage par IRM du corps entier est effectué sans agent de contraste selon un protocole généralisé, non optimisé pour une région anatomique ou une affection particulière, ce qui entraîne une sensibilité et une spécificité moindres. Au surplus, les examens consécutifs à une IRM du corps entier qui a révélé des anomalies entraînent des tests complémentaires, biopsie, intervention chirurgicale, etc., qui comportent des risques non négligeables. Et cela, a ajouté l'Association canadienne des radiologistes, dans un contexte où le système de santé canadien est aux prises avec des pénuries critiques en matière d'équipement d'imagerie et de personnel spécialisé. Lorsque des personnes en bonne santé se soumettent à des examens d'imagerie du corps entier non justifiés, elles mobilisent des ressources d'imagerie précieuses au détriment de celles qui présentent de réels besoins cliniques. Notons cependant que l'IRM en tant que telle n'est pas dangereuse pour la santé de façon directe, parce que l'examen n'implique pas de radiation. C'était « Il faut réduire le nombre d'examens inutiles », plaide le Collège des médecins. Un texte de Louise Leduc, paru le 18 juin 2026 dans la presse.